Radio Couleur Chartreuse vous présente La Saine Cause. Du bien commun, de l'éducation populaire, des rencontres. Tous les jeudis à 20h et les dimanches à 15h. Émission proposée et présentée par André Duny.
Bonjour André Duny. Bon, toujours des sujets un peu graves, hein. J'espère que je vous fiche pas trop le bourdon. Mais c'est pas moi qui vous fiche le bourdon, je pointe juste ce qui va nous mettre le bourdon, cette éco-anxiété massive du peuple français. C'est depuis longtemps l'éco-anxiété des paysans du Sud qui voient réduire leur récolte et qui entrent dans la faim. Hein, rappelant qu'il y a 300 millions de personnes de plus qui ont faim, et on a dépassé le milliard à cause du changement climatique. Non, pas à cause du changement climatique. À cause d'un mode de production et de consommation et de culture occidentale qui a mis la nature en émoi. C'est la clameur de la nature, ce qui arrive. Une baignoire par mètre carré est tombée en quelques minutes dans le triangle à l'est Nîmes-Montpellier. La Neuf inondée, vous avez eu ces images incroyables, les gars dans leur bagnole, et litroyé, parce que l'eau rentrait pratiquement par la portière. Et donc, le risque, c'est que la bagnole se mette à dériver et qu'elle se retourne. Enfin, bref, une baignoire par mètre carré dans le triangle Alès, Nîmes, Montpellier. 5 fois plus d'événements extrêmes en 2020 qu'en 2070. En 2020 qu'en 1970. 1970, rapport Midhoff. Massachusetts Institute, vous voyez mon anglais, hein. Et là, ça a été une trentaine de chercheurs, aidés par 300 autres, avec les ordinateurs les plus puissants de l'époque, qui ont fait des modèles. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a 0,5 degré de plus, vu que les carottes glaciaires, déjà à l'époque, tiraient la sonnette. On est en plein réchauffement. Et les pétroliers disaient, mais non, il n'y a pas de réchauffement, c'est juste les cycles géologiques qui font qu'on est entré dans une période de réchauffement prolongé, mais ça va se calmer. C'est pas bien grave. Eh ben, c'est grave, les copains. C'est grave. Et c'est même très grave. On a perdu les sachants du territoire. On a eu des PLU, de zélés élus investisseurs qui n'y connaissaient rien. On a eu des morts dans la vallée de la Savoie, au Grand Bornand, parce qu'on mettait un camping en plein dans une vallée dont les anciens disaient « Attention, quand ça se déchaîne, ça ravage tout ». On a eu beaucoup de morts dans la vallée de l'Ouvèze, au fameux pont romain. 80 morts, les enfants de l'école qui regardaient passer les caravanes avec des gens dedans qui criaient « Sauvez-nous ». Excusez, je suis ému, mais et puis peut-être pas anxieux, parce que l'anxiété, c'est quand on a peur de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. La menace est partout, on va se faire égorger ou pas, on ne sait pas d'où ça vient. Mais là, on peut avoir peur, parce que la peur, c'est une anxiété qui sait d'où ça vient. Voilà, une baignoire par mètre carré, une baignoire par mètre carré, une autoroute inondée, vigilance rouge, arrivée trop tard, comme d'habitude. On n'est pas adapté, mais on n'a pas les moyens non plus de s'adapter. L'État français fournit 300 milliards aux riches chaque année, ou leur laisse exporter leur argent chaque année. 300 milliards, ça comprend les 80 milliards d'expatriation de l'argent. Évidemment que l'argent manque, mais ça, c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a toute une culture nouvelle, fondamentale, qui doit se mettre en place si on veut pouvoir lutter. Donc, la vigilance route, c'est à 10 minutes. Les pluies méditerranéennes, ça ne prévient pas, et d'un seul coup, c'est des trombes. Ben, il faut pouvoir faire un réseau de surveillance et tout de suite pouvoir joindre la masse des gens sur l'autoroute, ou plus exactement, fermer les accès. Fermer les accès. Voilà. Il n'y a pas que les autoroutes. Voilà. New York, ben, le métro, il a été inondé. Eh bien, ça fait beaucoup de sous. Ça fait beaucoup de sous, puisque la dernière fois, les pluies diluviennes, hein, c'était début de 2009, 160 milliards de dollars pour éponger Katrina et l'eau dans le métro. Et là, de nouveau, l'eau était dans le métro. New York, il y avait 50 cm dans les rues. New York disparaîtra dans quelques dizaines d'années. Parce que New York est à ras les flots et que le Groenland fond, ainsi que la calotte arctique et celle de l'Antarctique, celle opposée, quoi. Eh ben, les amis, parlons vrai, dit Jean Jouzel, le vice ou co-président du GIEC, hein, ces 2500 chercheurs, appointés par l'ONU, pas appointés par l'État français, pas appointés par les laboratoires, par les pétroliers, et eux, ils se tirent les cheveux. J'écoutais son interview, on est loin du compte dans les décisions prises par la majorité des États. C'est un peu plus 50% qui a pris des décisions. Il y en a encore 50% qui n'ont pas pris des décisions, et ça craint un peu, dont la Chine, hein, qui a dit qu'elle s'engageait sur la voie de la transition énergétique, écologique, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fixé d'engagement chiffré. La France s'est fixée des engagements chiffrés, mais elle ne les tient pas. Donc, comme il dit, on sera tous affectés grave s'il y a 2 degrés. Les engagements, c'était pour tenir l'objectif de l'accord de Paris 2015 de pas plus qu'un degré 5. On sait très bien combien de milliards de tonnes de CO2 il faut mettre dans l'atmosphère pour atteindre plus qu'1,5. Ben, on est en train de dépasser à l'aisement. Voilà. À 3 degrés, ce sera l'enfer pour tout le monde. Sauf peut-être pour Jeff Bezos, il sautera dans sa fusée et il ira s'installer sur Mars ou sur la Lune. Mais là, il ne tiendra pas longtemps parce que l'atmosphère ne se renouvellera pas et il va mourir lentement asphyxié dans son bunker lunaire. Bah, tant mieux que tous les riches y aillent et que leur pognon soit approprié pour que les pauvres puissent lutter pour survivre à ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe encore en France ? Ben, il y a eu toujours l'histoire, la vision systémique et toujours les contradictions qui avancent entre les forces qui veulent se battre pour la survie de l'humanité et celles qui se battent pour la surexploitation de la planète, c'est-à-dire le surprofit, c'est-à-dire le gonflement de leur portefeuille. « 2020 à 2030, il faudrait multiplier les ambitions par 5. Si on reste sur notre trajet, toute notre civilisation s'effondre, dit-il. » Voilà, dans les pays engagés, c'est-à-dire les 50%, il faudrait une solidarité sans faille au niveau de la planète. Ben, on n'y est pas encore, hein. Donc, peut-être que si on regarde la France, on n'y est pas du tout. D'accord, on est content, enfin un peu moins d'émissions de CO2 que l'Allemagne ou la Pologne, évidemment, puisque on dit qu'avec nos centrales nucléaires, une bonne partie de l'électricité, 75%, ça fait autant de carbone de moins dans des centrales à gaz ou à charbon. Ok, mais c'est pas sans coût de CO2. Mais c'est sympa parce que le CO2, il est produit une bonne partie dans les mines, l'extraction, le concassage et le premier traitement de l'uranium au Niger ou en Australie, dans les carrières. D'ailleurs, en parenthèse, ils meurent à 32 ans en moyenne, hein, les carriéristes, parce que c'est le cancer quand on travaille l'uranium. Donc en France, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors toujours un peu d'histoire, récente, ben, la Convention. La Convention, ça devait être 150 propositions. Tout de suite, on a voté que la réduction du temps de travail à 30 heures ou à 32 heures était à écarter du débat. Ah bon ? Ben, ça aurait fait une sacrée économie en CO2. Déplacement, activité économique réduite. Non, c'était une mesure de décroissance à dégager. Elle a été inacceptée. Et inacceptable. Ensuite, on a dit, écoutez, il faudrait qu'on diminue, on augmente les impôts sur les riches, on fasse des tranches supplémentaires pour les riches, on rétablisse un ISF rigoureux, écarté, parce que Mais oui, mais dommage, parce que les riches font 140 fois plus de gaz à effet de serre, les très riches, hein, que les pauvres. Voilà. Vous avez 0,1% des plus riches qui font plus d'effets de gaz à effet, qui font plus d'émissions de gaz à effet de serre que 4,3 milliards de la planète, c'est-à-dire plus que la majorité. Je répète, 0,01%, 80 millions, font plus de gaz à effet de serre que les 4 milliards 300 millions les plus pauvres. Voilà, eh ben, c'était très bien. Écarté, dégagez-moi ça. Inutile. On ne va pas traiter de ça. On parle de la transition. On a écarté peu à peu les propositions les plus en pointe de la Convention citoyenne. Et la loi climat et résilience, qui fait beaucoup parler d'elle, qui devait théoriquement s'en inspirer, a été votée ce 29 juin par le Sénat. Et elle est qualifiée quand même de demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle rate sa cible, parce que on note la France, la cible c'était au moins minimum 40% de moins d'émissions d'ici à 2030, on est en 22 bientôt, on ne va jamais faire ça en 8 ans, moins 40%, vous vous rendez compte? Moins 40% de pétrole, moins 40% de gaz, moins 40% de bagnoles ou d'émissions par les bagnoles, moins 40% camions, moins 40% d'agriculture avec des engrais qui font beaucoup de gaz à effet de serre, moins 40% de bovins qui pètent et qui font beaucoup de gaz à effet de serre et la viande qui consomme beaucoup de gaz à effet de serre entre les tourteaux GM, c'est 4 millions de tonnes qu'on importe, je crois que ça a baissé un peu, hein, je voulais dire 5 millions, qu'on importe d'Argentine, Brésil et États-Unis, bon, bah, on va en importer un peu moins, mais tout ça, ça fait beaucoup de gaz à effet de serre, ces vaches hors sol qui mangent ces tourteaux huileux, ça fait beaucoup de paix au méthane, beaucoup de gaz à effet de serre. Le transport et le traitement de la viande, ça fait beaucoup de gaz. S'il fallait réduire tout ça de 40%, ben voilà. Et ce, dans un esprit de justice sociale, hein, parce que pas normal qu'il y en ait qui se tapent des restos clandestins à 400 euros la tête, hein, comme on a entendu dire, et puis d'autres qui, chez eux, se contentent des nouilles encore. Pour eux, des en or, des C en or, et pour nous, des C, des nouilles encore. Pour eux, des C en or, pour nous, des nouilles encore. Donc, avec la justice sociale, encore plus dur, puisque les inégalités sont accrues, vous avez bien vu, hein, que on va aller vite. Parce que, vous voyez, faire toujours l'histoire et toujours la vision globale et systémique. Les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine grossir de 130 milliards, plus 22%. Là, entre 2017-2018, la même chose en 2019-2020. Vous avez vu, c'était indécent pendant l'épidémie. Bernard Arnault, notre PDG, non pas notre PDG, notre principal actionnaire de LVMH, notre multinationale du luxe. Alors lui, c'est incroyable. J'écoutais une de mes émissions. Bah tiens, j'aimerais bien vous repasser une ou deux d'émissions courtes de Radio Valence, là, Radio BLV, que je faisais. Et donc, je rappelais que sa fortune, à l'époque, c'était 37 milliards. Ben oui, maintenant, c'est 150. Vous vous rendez compte, la dernière émission que j'ai faite là-bas à Valence, c'était en 2015. Et j'y parlais de sa fortune, ben, elle a été multipliée par 4, par 5 en l'espace de 6 ans. Inimaginable. Pour une raison très simple, les amis, c'est ce que nous disions dans les précédentes émissions. Qui est propriétaire des moyens de produire de la valeur, de la richesse, est celui qui s'approprie la plus-value de cette production. Aux ouvriers, l'exploitation dans le travail. À moi, l'actionnaire principal, Bernard Arnault de LVMH, le pognon. Et plus ça produit du luxe et plus il y a des riches, avec les systèmes de plus en plus inégaux de nos sociétés capitalistes, et plus je peux faire de l'argent personnel et prélever ma dîme sur ce qui sort. Puisque les actionnaires, en gros, on prend l'exemple de Sanofi, hein, si Sanofi fait, mais je sais pas, mettons 14 milliards de profits, vous avez la moitié qui part dans la poche des actionnaires, sans rien faire, ou juste à surveiller les cours de bourse. C'est quand même cher, le système capitaliste, c'est très cher. Mais ça crée une masse de gens qui ont tellement de pognon, Bon, je vais pas revenir au yacht de Abramovitch. 330 mètres, 300 millions. Le yacht de notre ami principal milliardaire et bien français Bernard Arnault, qui a voulu s'expatrier en Belgique, payer moins d'impôts, casse-toi pauvre riche, qui avait dit Libération, ça a coûté très cher aux journalistes qui ont fait ça, hein, entre parenthèses. Et bien Bernard Arnault, son yacht, lui, il n'a que 100 millions. 100 millions et il ne fait que 100 mètres ou 110 mètres. Eh bien, les 500 plus grandes fortunes de France, hein, voilà. Alors abolir la dictature des actionnaires sur l'économie, virer les actionnaires, ça va être une des conditions pour faire un climat acceptable, du moins social. Pour le climat, une bonne partie du coup est partie, on va avoir de plus en plus de cataclysmes, mais on peut s'en protéger. Donc, je reviens au fait que l'humanité fonce dans le désastre, et ce n'est pas l'humanité, c'est une structure sociale, économique, qui fonce au désastre, parce qu'elle est tellement inégalitaire que sont beaucoup plus exposés à l'apartheid écologique, comme disait mon ami Jean Gadret, ceux qui en sont les plus démunis, qui habitent le long des ronds-points, des boulevards enfumés. Voilà. Les scénarios à long risque qui se préfigurent font que c'est un certain Benjamin Dessus qui a dit « L'arche de Noël de l'apartheid climatique, la marée humaine des réfugiés climatiques, la pénurie d'eau et de terre, les réfugiés de la misère ». Les polices vont chercher, les plus riches vont chercher avec leur police, leur État, les forces armées, à se préserver un espace écologique de qualité en s'entourant de murs de toutes sortes. Non, c'est plus tout à fait ça. Ils vont simplement acheter en Suède pour prolonger leur vie vivable à eux pendant qu'on crèvera de chaud sur Paris. Ils cherchent à acheter, ils ont beaucoup acheté des fermes géantes avec 300-400 moutons, de quoi avoir à manger jusqu'à la fin de sa vie, et puis des fermiers, hein, parce que pour faire les légumes, c'est pas ces messieurs-dames qui vont les faire. En Nouvelle-Zélande, parce que c'est le bout de terre immergé le plus loin de toute forme de civilisation, donc personne ne va prendre un canoë pour aller embêter les riches en Nouvelle-Zélande. D'autre part, c'est là où les perturbations du climat seront les moins fortes, d'après les prévisions. Enfin, il y a juste l'activité volcanique, mais on connaît à peu près l'endroit où ça risque de craquer. Bon, il suffit de se mettre dans un autre endroit et on aura beaucoup moins de conséquences. Voilà, et puis c'est pas tout qui craque, hein, c'est des failles, puis des volcans. Bon, il suffit de se mettre à une distance un peu respectable, et puis voilà. Donc, voilà, les guerres écologiques et climatiques et pour l'eau sont devant nous, qui va se faire rare. Et puis pendant ce temps-là, ben voilà, en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, le Sénat vient de voter la loi climat. Hein. toutes les ambitions ont été amoindries par le gouvernement sur des enjeux importants comme, on ne va pas interdire Total, hein, qui a 200 milliards de chiffre d'affaires, construit avec Exxon et avec Yukos une usine en Sibérie du Nord, vers le cercle arctique de, je ne sais plus combien, 22 milliards pour puiser le gaz au plus profond et nous l'amener par le pipeline qui va passer au Nord pour éviter l'Ukraine, que Poutine, qui est une espèce de guerre larvée entre la Russie et l'Ukraine, en fait, entre deux régimes, l'un libéral, l'autre très étatiste et autoritaire, et qui ont des intérêts opposés. Et voilà, Poutine ne veut pas que ça passe par l'Ukraine, parce que quand un pipeline passe chez vous, ben, vous prélevez votre dîme sur la quantité de gaz qui passe, et ça vous enrichit. Et l'Ukraine, ils vont être dans la merde, parce qu'ils ont vraiment besoin de plus de gaz. En tout cas, on a un gouvernement qui a fait refuser d'interdire la publicité des produits les plus polluants. Un gouvernement qui avance à pas très lent sur la rénovation massive des logements. Il y a 37 millions de logements à rénover, c'est-à-dire à isoler. Ça consomme énormément le logement. Voilà. Il y a des dizaines de milliards à mettre sur le développement massif du transport ferroviaire. Voilà, il y a un petit remue-ménage. On a même Castex qui a fait le voyage Paris-Briançon en train de nuit. On a un train de nuit, la France. Ben, on est heureux. Hein. C'est pas du tout ça. Il faudra en remettre partout comme il y avait avant. Moi, j'étais très heureux dans les trains de nuit. Bref. On va pas évoquer des souvenirs personnels, mais c'est un mode qui vous fait gagner du temps. Vous dormez, vous arrivez, il n'y a pas besoin d'avion, il n'y a pas besoin de TGV. Un bon TER ou un bon, à l'époque, Corail faisait l'affaire. Et puis le bruit cadençait des wagons sur les rails vous berçait toute la nuit. Surtout si vous étiez avec une amie ou un ami. Alors, donc, Tintin pour réellement développer les transports, vous voyez ce qui se passe. Tout ce qu'on veut faire en ce moment, c'est le Lyon-Turin. Partout, le gouvernement a pas feutré divers organismes semi-publics, semi-privés, poussent à la réalisation du Lyon-Turin. Il y a baisse du trafic de camions. On peut mettre 800 000 à 1 million de camions sur les voies existantes sans percer ce tunnel à 32 milliards. Ben non, on veut percer le tunnel. On veut faire passer aussi le TGV dans le tunnel. Mais fichtre, mais TGV pour gagner 20 minutes entre Lyon et Turin, c'est hallucinant. Et on s'en fout du TGV, c'est plus du tout le train adapté à notre époque. Il faut arrêter avec le TGV, train des riches, très cher, qui consomme énormément d'électricité nucléaire. Dès qu'on veut allonger un peu la vitesse et 30% de plus d'électricité, ça bouffe une électricité folle. Alors que des petits trains locaux électrifiés avec des petites turbines locales pourraient faire l'affaire. C'est ça le plus urgent, c'est de remailler le territoire avec des tramways. Alors moi je vais passer pour un imbécile, mais je milite, vous avez entendu ça, hein, pour la réouverture d'une tramway Saint-Béron, Saint-Égrève, le tramway Pont de Beauvoisin, Les Abrets, ou je ne sais plus trop, là, dont j'ai appris l'existence ce matin, parce que je ne suis quand même pas tout à fait un historique du coin. Il faut remettre du tramway, il faut remettre du transport collectif, il faut arrêter de tout mettre sur la mobilité individuelle qui fait des C en or à ceux qui vendent les batteries électriques de vélos ou des bagnoles, tout ça pour transporter une personne à des prix pharaoniques, alors que vous pouvez mettre un petit bus au gaz, de préférence biogaz, mais ça on en reparlera, et qui va transporter tout le monde, ou faire des navettes, il faut mettre le paquet. Bon, mais pas du tout le paquet. Et voilà, la vente de voitures faiblement émettrices de gaz à effet de serre, ça coûte la peau des fesses parce qu'ils financent des voitures électriques à plus de 40 000, 30 000, dont ne peuvent se servir que des gens riches. C'est la voiture électrique, ça va être l'apartheid social. Il y a ceux qui auront la voiture riche, qui seront bien vus, comme ceux qui sont vaccinés, et puis il y aura ceux qui seront pas les moyens et qui se contenteront de pédaler sous la pluie. Il y a les engrais azotés dans l'agriculture, il faut arrêter. Voilà, ça coûte la peau des fesses de prendre l'azote au Maroc, de le transporter en porte-container géant qui consomme 60 tonnes de fuel lourd à l'heure. Amener ça dans un port à Bordeaux, à Brest, et ensuite décharger tout ça et le mettre sur des camions pour l'amener à des agriculteurs, c'est démentiel. Il faut faire de l'azote avec l'agriculture biologique, c'est-à-dire avec des pois, de la luzerne, mais surtout ce merveilleux haricot que j'ai expérimenté dans mon jardin d'engrais vert, et qui est une pure merveille, mais ça, peut-être qu'on va en parler avec des agriculteurs prochainement, parce que là, ce petit haricot peut être mangé par les vaches, les cochons, peut-être mangé aussi par l'homme, mélangé à d'autres haricots, parce qu'il est un petit peu amer. Il fait énormément d'engrais verts, c'est une véritable forêt qui pousse, bien mieux que la moutarde, la facélie, et ses autres engrais verts. Et donc, il est à la fois nourricier pour le bétail, nourricier pour les humains et nourricier pour le sol. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Voilà. Donc, on peut peut-être essayer d'envisager aussi une polyculture élevage raisonnable, entièrement au sol et non hors sol, comme la moitié de l'élevage français qui est hors sol avec des tourteaux, pour, faire beaucoup moins de gaz à effet de serre. Le petit haricot, c'est la févrole, pour ceux qui m'ont posé la question. La févrole, une merveille. Beaucoup mieux que, je vous dis, la facélie, la moutarde et compagnie. Réduction des engrais, réduction des élevages de poulets intensifs. Bref, vous voyez, on n'attaque rien de tout ça à fond. Notre loi est encore une occasion manquée. Pendant ce temps-là, le climat se réchauffe comme un vieux cheval au galop. Il faut faire émerger des réglementations d'État très contraignantes. D'abord les riches, piquer le pognon du train de vie des riches qui bousille la planète. Hein. Comment les riches détruisent la planète. Hervé Kempf, encore un petit livre à lire. Arrêter ce consumérisme imbécile, nationaliser puis ensuite relocaliser les banques. Il y a du boulot sur la planche que l'on ne fait pas. Hein. Et au niveau des élus locaux, sachez quand même que c'est au niveau local que se font plus d'investissements que tout l'État français en 3 ans. L'investissement local, c'est le triple de ce que l'État fait au plan national. Et donc, on investit dans quoi ? Il n'y a qu'à voir. Hein. Là, une usine à poulets à Saint-Béron, sur laquelle on va peut-être se mobiliser, a des poulets de 28 jours. Vous voyez, c'est du poulet qui a été muté. Qui a un gros jabot, vous voyez ce que je veux dire, un très gros jabot, et alors au bout de 15 jours, eh ben, il ne peut pas se tenir debout parce que le poids du muscle qu'il a sous la gorge lui le fait basculer en avant. Donc, comme on a interdit l'élevage en cage, il est au sol, et au sol, il y a de la merde, et donc il baigne dans sa merde. Et de 15 jours à 28 jours, voilà, il va grossir parce que les Européennes, les Européens ne veulent manger que du filet. Et donc, ça va être dans des usines à poulets que ça va être éviscéré automatiquement et que les pattes, et même maintenant les ailes, tout ça, ça part en Afrique surgelé pour 1 euro le kilo. C'est considéré comme du déchet, alors qu'une patte de poulet mise à revenir un petit peu et avec du riz, c'est excellent. Mais ça part tout en Afrique, on ne veut plus que du filet, une horreur. Voilà. Eh bien, j'ai oublié les plumes, les les ongles, les plumes, les ailes et les becs et la tête, vous savez, c'est broyé, puis ça fait du... ça fait ce qu'on donne à nos chats. Voilà pourquoi ils puent de la gueule, nos chats, nos chiens. Domestiques, d'ailleurs, il y en a trop, 14 millions en France. C'est une... Voilà. Et ensuite, vous allez au vétérinaire. Le vétérinaire, ben, c'est 100 euros, hein, 36 euros la visite, 5 euros l'examen spécialisé, pas 5, 15 euros l'examen spécialisé. Ensuite, il y a l'anti-truc, l'anti-machin, l'anti... Et là, vous sortez, vous en avez pour 100 euros. Et des familles populaires qui aiment offrir des... Bon, voilà. Tout ça, il faudrait le réduire massivement. Ben, on n'en est pas là. L'inaction climatique de l'État a été jugée illégale par le tribunal administratif de Paris. Bon, après une plainte déposée à la Cour de justice contre 5 ministres pour inaction climatique. Bon, c'est des coups d'épée dans l'eau ou c'est peut-être des petites victoires symboliques, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut prendre un pouvoir direct d'arrêter cette grande quincaillerie industrialo-technique qui est en train de nous précipiter aux portes de l'enfer. Attention, je ne dis pas que l'effet de serre n'est pas utile. Hein. Sans effet de serre, la Terre serait en moyenne à moins 18 degrés. L'effet de serre, c'est donc ce gaz, alors il y en a toutes sortes, hein, à commencer par la vapeur d'eau, le CO2, c'est le gaz de Broglie, le méthane, qui s'accumule et qui protège la Terre d'un refroidissement trop grand, en maintenant, c'est son nom, hein, un effet de serre, comme quand vous mettez une serre, que le soleil tape dedans, ben, il fait très vite beaucoup plus chaud. Voilà, Vénus n'a plus d'atmosphère, elle a perdu son atmosphère il y a 2 milliards d'années, eh bien, il y fait 500 degrés. Mars a perdu son atmosphère il y a beaucoup moins de temps, et il y fait moins 140 degrés. Voilà, il faut une couverture de gaz pour maintenir une température douillette sur la Terre, sans quoi il n'y a pas d'agriculture, pas d'humains, pas de vie, ou en tout cas des formes de vie extrêmement rudimentaires. Mais ce qu'on a fait, c'est que la température moyenne de la Terre est augmentant avec le fait qu'il y a plus de gaz à effet de serre et l'impact, c'est l'aggravation des événements météorologiques extrêmes. L'élévation moyenne du niveau des mers, moyen parce que la chaleur aussi gonfle les océans. Hein. Par simple dilatation, vous pouvez prendre 50 cm ou plus, 1 mètre dans l'océan, parce qu'il gonfle en prenant de la température. En se réchauffant. Vous avez l'élévation moyenne du niveau des mers, je viens de dire, l'extension des maladies infectieuses, bonjour ce qui va arriver derrière le Covid, et puis vous avez bien sûr l'impact sur la biodiversité, comme sur les humains, ben, qui est catastrophique, hein. Faut pas croire que ça... Voilà, hein, ce printemps, ben, 80% des abricots, ils sont passés direct à la benne. Donc, c'est grave. Puis cet été, pareil, il y a des fruits qui ont été brûlés par la chaleur intense ou la sécheresse. Bon, conclusion, il frappe plus durement les pays qui ont le moins responsable, qui ont très peu produit de les gaz et qui ont les moins les moyens d'y faire face. C'est l'apartheid écologique planétaire. Et la France, qui fait la maline avec son nucléaire, n'est pas à l'abri. Par exemple, la fréquence des canicules va s'intensifier. On aura peut-être un dôme de chaleur de 52 degrés sur la Chartreuse, avec tous les massifs qui brûlent. Oui, c'est tout à fait envisageable. Les gens du GIEC le disent qu'il y aura des dômes de chaleur sur la France dans les prochaines années. C'était au Canada, hein, vous vous souvenez, une ville entière rayée de la carte, brûlée. Brûlée, goudron fondu et 80 morts. Vous avez eu ces images, donc j'insiste pas. Et se pose le problème d'interprétation de tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair. Ce que je veux dire, c'est que on dit c'est l'anthropocène, c'est l'âge de l'homme. Oui, mais c'est pas l'homme, c'est le système économique et social. Si on dit l'homme, c'est tous les individus. Quelle différence entre quelqu'un qui roule avec une petite bagnole au gaz et l'effet d'une grande multinationale qui transite son engrais depuis le Maroc jusqu'à la France dans des porte-containers qui brûlent 80 tonnes ou 60 tonnes, les plus gros, hein, 80 tonnes, 60 tonnes, les plus petits, c'est-à-dire 300 000 tonnes, c'est 40 tonnes à l'heure. Vous voyez, vous brûlez, allez, on va dire un plein, mettons, par 10 jours ou par 15 jours, comparez vos 60 litres d'essence ou de gasoil avec 80 tonnes à l'heure. Vous brûlez à l'heure, mettons qu'à l'heure, vous soyez sur l'autoroute, faites 100 km, vous brûlez 6 litres. Et encore, c'est pas du fait lourd. Hein. Donc, on est dans des trucs monstrueux. On a laissé se développer un capitalisme monstrueux. Voilà. Et il faut penser, non pas que c'est l'anthropocène, c'est-à-dire anthropos, l'homme, qui a... Mais c'est une occidentalocène, ou même une capitalocène. Donc je vous renvoie à Anthropocène ou Capitalocène, un livre très intéressant qui est sorti il y a déjà 3-4 ans et qui dit que l'effondrement de la civilisation, c'est l'effondrement de la civilisation occidentale. C'est pas l'effondrement des civilisations qui ont protégé la civilisation, qui ont protégé leur civilisation. Je sais pas si vous avez vu sur Arte ces films récents sur les Aztèques, les Incas, les Indiens d'Amérique du Nord, les Comanches. C'était inimaginable. Ils ne laissaient aucune trace, aucune pollution. Tout était fait avec la nature. Des petites fonderies qui avaient un impact zéro sur le climat. Et qui adoraient le rocher aussi bien que le nuage, que la pluie, la Pachamama, la terre-mère. Ces civilisations spirituelles ont fait de la nature le moyen de vivre de l'homme, alors que nous faisons de la destruction de la nature le moyen de la vie de l'humanité. Nous sommes bien dans l'occidentalocène, ou mieux encore, le capitalocène. Parce que dans l'occidentalocène, ce qui pêche, c'est de mettre tous ceux d'Occident dans le même sac. Je suis désolé, quand je vois la misère sur Pont de Beauvoisin, ce ne sont pas les miséreux hein, qui, avec leur petit 512 euros par mois et leur sac Lidl qui vont défoncer la nature. D'accord, ils auront acheté peut-être des patates qui vont venir de Belgique dans leur cabas, mais leur consommation est sans commune mesure avec le yacht dont je vous ai parlé un peu plus en détail, d'Abramovic en Méditerranée. Rien à voir. Lui, il consomme avec ses 12 hommes d'équipage, plus ses cuisiniers, plus les nanas pas chères ou assez chères pour son petit plaisir. Ils sont payés, c'est des hôtesses polyvalentes, comme on dit. Donc ça fait un gros paquet d'équipage. Bah, si vous comptez le salaire de tout ça, le coût de fabrication en CO2, bah voilà, vous pouvez dire qu'il consomme un milliard de fois de plus de CO2 que celui de Pont de Beauvoisin. Donc... Nos imaginaires ont été colonisés par l'idée que nous étions tous responsables. Et donc, je m'interroge beaucoup sur quelles utopies concrètes vont nous rendre capables de sortir de cette espèce d'enfermement dans la fatalité. Nous sommes donc, je l'ai dit, éco-anxieux. Tout le monde est anxieux de savoir qu'est-ce que va être l'avenir. Tout le monde voit bien qu'on se précipite vers les portes de l'enfer. Y compris dans le coin, là, quand la chartreuse sera en feu, ce sera trop tard, parce que c'est quand même ça, avec ça que la chartreuse a l'air le mieux respirable de France, avec les Vosges. Le jour où tout ça, ça va cramer, ça va être un drame sans nom. Et c'est tout à fait dans l'horizon des années prochaines. Donc, comment nos imaginaires ont été colonisés au point que on va droit dans le mur, on commence à le savoir, on a peur, où on est anxieux plutôt, sans trop le savoir, sans trop vouloir le savoir. Bref, personne ne croit que les choses peuvent changer, qu'on puisse ainsi arrêter la machine à broyer la nature qu'est le capital. Personne ne pense qu'on puisse avoir des médias qui nous disent la vérité et qui soient faits avec des journalistes honnêtes et qui soient une propriété collective. Si, il y a des petits canards locaux, alternatifs, financés par vous-même, mais... En gros, qu'est-ce qui reste comme canard? Même le canard enchaîné dit des grosses bêtises sur le pass sanitaire qui m'énerve. À part le monde diplomatique, même l'humanité qui dit vaccinons-nous, vaccin. Eh oh les gars, regardez un peu ce qu'il y a dans le vaccin. Par qui, à qui profite cette vaccination? Pourquoi on a développé cette cascade de peur? C'est très timide les médias, même de gauche, en matière de critique du système. Or, si on ne critique pas le système et si on se laisse coloniser nos imaginaires par ces médias et ce système, on est dans du non raisonnable, on est dans l'anxiété, voilà, et surtout dans le fatalisme. Rien ne peut changer. Or, qu'est-ce qu'ils disaient en 1789, nos Français, qui n'avaient pas les moyens qu'on avait à l'époque, qui n'étaient pas autant instruits? Ben, qu'est-ce qu'il disait? Elle se fout de notre gueule, qui nous dit on n'a pas de pain, qu'on mange de la brioche. Dégage! On disait « Dégage Louis XVI, dégagez les nobles, dégagez l'Église qui nous exploitait hein, », parce que ce soit l'Église ou les nobles, c'était pareil, c'était des serfs, que ce soit serfs d'un cardinal ou serfs d'un noble, changeait pas grand-chose à l'affaire. Donc on les a bel et bien dégagés, puisque en une nuit, celle avant le 4 août, où ça a été voté aux délégués de l'Assemblée dite constituante, il y avait des délégués du tiers-État, des délégués de la noblesse, délégués du clergé. Eh bien, là, il y a eu un vote quasi unanime pour dire on arrête les privilèges, enfin les plus gros, pas ceux de l'argent, pas ceux de la propriété, mais on va arrêter le servage. Eh bien, pourquoi ils ont pris cette décision? Et c'est même à l'initiative d'un noble. Eh bien, parce que 4000 châteaux ont brûlé. Un peu avant la nuit du 4 août, ils ont envahi les châteaux, ils ont dit « il y en a marre, on veut plus de ça, le droit de cuissage, l'exploitation, la dîme, travailler pour nos maîtres sans rien avoir, on veut la terre, on veut… » Bon, bref, ils ont renversé la table, et nous, aujourd'hui, on renverse. Si, il y a des mobilisations tout azimuts, mais séparées les unes des autres. Un coup les artistes, un coup les soignants, un coup les antipasses, un coup les agriculteurs, petits agriculteurs, un coup les pro-changement, les anti changement climatique et pour la transition écologique, un coup ceci, un coup cela, un coup les gilets jaunes, ben là c'était le plus gros coup, parce qu'ils ont intégré et le changement climatique, et voir notre dernière interview, là je vais en faire une prochaine. Bref, nous ne croyons pas ce que nous savons, qu'on va à la catastrophe. Si on le croyait, mais on s'insurgerait de tous les côtés. Et pourquoi est-il si difficile, par ici, de faire du débat? Je n'arrête pas de demander des salles à Pont-de-Beauvoisin pour relancer des débats. Rien ne vient. Rien. On ne veut pas du débat. Ils ont peur. Ils ont peur parce que, voilà, il y a des intérêts puissants à faire qu'il y ait plus de silence et de passivité chez les citoyens que d'action réfléchie. Donc, il y a les collapsologues qui nourrissent l'impuissance aussi. Parce qu'à force de nous dire que la cata est là, eh ben, ils nous poussent à l'individualisme, à échapper, à nous adapter individuellement. Alors bon, je pars dans les bois avec mon sac à dos, ma kalachnikov, ma bite, mon couteau, ma capacité à faire du feu, deux, trois boîtes de conserve. Attendez les gars, c'est pas ça la solution. Le survivalisme est né dans les pays anglo-saxons, dans l'idée toujours que l'individu va se sauver tout seul. Alors le sommet du sommet de la connerie, bien sûr, c'est Bezos, qui a force d'exploiter les gens avec sa fortune personnelle de 150 milliards. Il est juste avant notre Bernard Arnault. Il s'envoie en l'air avec sa fusée en pensant qu'il va échapper à l'effondrement de la vie sur Terre en colonisant Mars, en remettant de l'oxygène sur Mars avec des micro-organismes. Et il rigole. L'oxygène en France, en France, sur le monde, ça a mis 3 milliards à se créer à partir de lichens, de bactéries, de machins, de trucs qui ont produit de l'oxygène tout en consommant et ont rendu la vie possible, parce que l'oxygène, c'est la vie. Mais l'oxygène n'est pas venu de l'extérieur, c'est pas Dieu qui l'a produit, c'est l'ensemble du vivant qui a produit de l'oxygène. Alors, désagrégation finale et horreur généralisée, c'est le scénario. Ben non, il faut faire mentir scénario et il faut imposer un scénario de la rupture. Voilà. Donc, ne pas attendre le choc de la venue des désastres. Pas attendre que Pont-de-Beauvoisin soit noyé sous le gué, par exemple. Pas attendre que la Chartreuse soit en flammes. Pas attendre qu'on n'ait plus d'électricité parce qu'il y a eu un crash électrique. Pas attendre qu'on n'ait plus d'Internet. Mais se bouger à commencer par le fait de remettre des ceintures vertes et tout ça. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant de regarder comment les peuples premiers, les précurseurs de la décroissance, ont dit qu'il fallait une vie sobre et proche de la nature, une société où il n'y ait pas des trop riches. D'ailleurs, tous ces gens-là prenaient des décisions démocratiques. Quand vous regardez les Comanches, leurs décisions, c'était les différentes tribus se réunissaient dans une grande tente et prenaient leurs décisions. Même chose chez les Incas. Il y a eu des rois sanguinaires et tout ce que vous voulez, mais ils ont inventé la démocratie bien avant même les Grecs. Après les Grecs, pardon. Les Grecs, c'était 500 ans avant Jésus-Christ, eux, c'était 1000 ans après Jésus-Christ. Mais voilà, il faut aller vers une narration de l'utopie concrète, et c'est celle que nous vous proposons dans nos émissions, pour passer à l'action, résister aux désastres du présent, résister à la bétonisation supplémentaire que veut la commune de Domessin, de 4 hectares de plus de goudron, de grande surface et de pognon dans son PLU, où elle veut mettre en constructivité la baronnie. Il faut se battre partout pour préserver, comme les choses les plus précieuses, nos terres, les rendre fertiles, avec du févrol, avec des feuilles mortes, avec du caca de nos bestiaux, remettre de la chèvre, remettre du bouc, remettre du mouton, remettre de la... Voilà, reprendre la traction animale, reprendre une vie qui va être joyeuse parce qu'on va être tous ensemble à refaire de la nourriture locale, tous ensemble à refaire un peu d'énergie locale, peut-être en distillant le bois ou peut-être en reprenant en propriété publique les turbines de la Bridoire, celles de... et nous faire ici peut-être un peu de biogaz pour faire la cuisine, biogaz sain, fait avec des déchets sains de l'agriculture, qui ne serviront pas seulement à faire du compost, mais aussi du biogaz. On peut en faire un peu avec du bois, on peut faire rouler des camions avec du gaz de bois, refaisons aussi du gaz de bois. Faisons donc une vie qui diminuera massivement notre empreinte. Voilà. Il faut arrêter immédiatement l'agriculture intensive, les pesticides, les énergies fossiles, Air France KLM, les bagnoles, le béton. les 66 000 hectares par an recouverts de béton et de goudron. Tout ce qui cause la sixième extinction de masse des espèces vivantes, dont la bientôt extinction de l'espèce humaine. Voilà. Hein, vous avez vu, les insectes disparaissent, on n'a plus de miel. Ben voilà, le capitalisme mène la guerre aux vivants, c'est un système criminel. Finissons-en. J'espère qu'on ne va pas me taper sur la tête pour dire des choses pareilles, mais tout le monde est bien d'accord. Sixième extinction de masse est la plus rapide et la plus dramatique depuis 330 millions d'années. Et ça, c'est le capitalocène. Voilà. Pendant que la population mondiale, on dit « Ah oui, mais c'est la population, il y a trop de monde !» Non, les amis. Pendant que la population mondiale a été multipliée par 10, depuis, je crois, le 1700, le capitalisme, lui, a été multiplié par 100. 34. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de développement de l'argent capitaliste, des usines capitalistes, qu'il n'y a eu de développement de la population. Ce n'est pas la population la cause. La population est une conséquence d'une nourriture qui arrive par camion du monde entier, pas trop cher, etc., qui fait qu'on a déserté nos campagnes. Eh bien, repeuplons tout ça. Faisons des villes avec des jardins, avec des ceintures vertes. Il est urgent d'aller vers cette culture de la nature, vers cette réappropriation. Sinon, je prédis un sombre avenir si nous ne sortons pas de l'imaginaire de « à moi les grandes surfaces, mon cabas, mon plastique, ma bagnole, mon voyage aux Seychelles, et après moi, le déluge ». C'était la devise, disait Karl Marx, des capitalistes. « Après moi, le déluge ». Eh bien, faisons-les mentir. Merci des amis. Voilà, battons-nous partout pour refaire dans nos communes de la démocratie, de la réappropriation du foncier collective, rachetons des terres qui servent à rien, si ce n'est de le maïs, et refaisons une vie vivable, comme j'ai connu dans son temps, où il y avait des fêtes tous les mois, où il y avait la distillerie qui est ambulante, l'alambie, où il y avait des carpes dans les étangs, ou carpes dans les étangs communaux, où on pouvait faire des pâtures communales, où les coupes de bois étaient communales, où les fêtes se succédaient, et finalement, on vivait pas si mal que ça avant l'arrivée de la désertification par le capitaliste de nos campagnes, qui a payé à coups de lance-pierre le blé, le bon blé bio qu'on produisait, et avec le Crédit Agricole, qui a fait acheter des tracteurs démentiels à des gens qui n'ont jamais pu les rembourser, et ainsi de suite. Et vous connaissez la suite. Nourriture empoisonnée, vie empoisonnée, climat en train de nous tomber, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Il faut revenir vers le progrès, mais un progrès différent. Merci, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce progrès, c'est un progrès humain, se reparler, se refaire de la démocratie, se refaire une culture et une spiritualité qui nourrissent la nature, et sortir de cette civilisation folle de la technologie et de l'industrialisme et du profit et de la domination des plus puissants et de la 5G et de l'Internet partout. Enfin bref, vous m'avez compris. À bientôt.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.